Je voulais partager avec nous le message que nous avons fait à la radio. Comment gérer nos problèmes? Comment avec nos problèmes? La première chose qui s'est ajoutée, c'est de pouvoir reconnaître notre adversaire. C'est de pouvoir d'abord reconnaître notre adversaire pour mieux combattre avec lui. La Bible dit nous avons à lutter, nous n'avons pas à lutter. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai devant moi quelqu'un qui a un comportement bizarre, hein, je n'ai pas à lutter contre cette personne, mais contre la domination qui est dans cette personne. Hein? C'est-à-dire quoi? Une personne qui est devant moi et qui est très orgueilleuse, je n'ai pas à lutter contre cette personne, mais contre l'orgueil qui est dans cette personne. En conclusion, le combat n'étant pas charnel et étant spirituel, la dernière personne pour résoudre ce problème, c'est Dieu. C'est pour ça donc qu'il faut prendre les armes spirituelles, on va parler de ce message. Un enfant est drogué ou bien est délinquant, je n'ai pas à lutter contre cet enfant, mais j'ai à lutter contre les puissances du monde et du péché qui habitent en cet enfant. Hein? Et ça fait donc que le problème de l'Église et des hommes, c'est que souvent le combat est déplacé. Le combat est déplacé, on part des puissances qui sont dans les personnes pour lutter contre les personnes. Et ça fait donc qu'on se rend compte qu'on est en opposition homme à homme, et les puissances sont en opposition entre elles. C'est-à-dire que, dès lors que j'ai devant moi une personne qui est très orgueilleuse et qui fait tout par son orgueil pour m'écraser, et que je n'identifie pas l'ennemi en utilisant les armes que le Seigneur voudrait que je puisse utiliser, je vais maintenant lui opposer ma personne. Et comme la chair ne produit que la chair, hein, nous allons donc mettre en rivalité deux forces qui sont totalement charnelles. Donc, à son orgueil, je vais lui opposer une résistance. Or, la Bible dit de ne pas résister aux orgueilleux. Hein, c'est Dieu qui résiste, de ne pas résister. Hein. Alors, si donc je n'identifie pas l'ennemi et l'adversaire que j'ai devant moi, ça veut dire que quand je vais déplacer le combat, j'aurai des problèmes personne à personne, mais ce sera plus un combat puissance contre puissance. C'est-à-dire la puissance qui agit en moi contre la puissance qui agit dans cette personne. Puisque les combats de l'Ancien Testament étaient toujours les combats des dieux, il faut toujours le rappeler, Israël était agi par son Dieu et les Baals étaient agis par leur Dieu. C'est pour ça que parfois les rois, rappelez-vous, je pense c'est le géant, là, comment il s'appelle encore? Goliath. Quand il parlait de son Dieu. Il parlait de son Dieu, il présentait son Dieu. Et quand David est venu, lui aussi, il a parlé de son Dieu, il a présenté son Dieu. Et ce fut un combat des dieux, et les dieux ont utilisé les hommes. Et jusqu'à aujourd'hui, ça demeure un combat des dieux, et les dieux utilisent les hommes. Christ en nous, avec sa puissance, pour combattre les forces des ténèbres qui sont dans les autres avec leur puissance. Pas seulement dans les autres, même dans nous-mêmes. Parce que si j'identifie mon ennemi qui est en moi, c'est-à-dire mon orgueil, hein, si je veux avancer avec le Seigneur, il faudra absolument à un certain moment que j'identifie l'ennemi qui est en moi et qui me permet de ne pas avancer avec le Seigneur. Il peut donc être cet ennemi, mon orgueil, il peut être cet ennemi, les désirs de la terre, il peut être cet ennemi, et maintenant il faudra donc que je combatte contre cet ennemi. Donc ça, c'était un peu l'introduction que je voulais faire et je bénis le Seigneur parce que, comme je disais la semaine dernière, le Seigneur m'a donné véritablement une année d'achèvement. Je suis en train de commencer une année d'achèvement. achèvement vraiment dans tous les combats spirituels que j'ai eu, achèvement dans toutes les difficultés que j'ai eues et tout, achèvement en tout. Et dans cette année d'achèvement, le Seigneur qui m'a donc retiré de l'œuvre, tout simplement, et qui me donne de regarder les choses d'un peu loin, me permet de découvrir un certain nombre de choses. Parce que quand, par exemple, je reprends le problème de combat, quand tu es dans un combat avec quelqu'un et que tu ne te tais pas et que tu utilises des armes, hein, parole contre parole, si tu t'arrêtes un moment et que tu n'agis pas à l'Esprit de Dieu, tu prends un recul, tu vas identifier la maladie de cette personne. Et nous allons voir un peu, nous allons prendre le témoignage la semaine dernière. Était dans le monde. Nous identifierons un péché dans sa vie. Elle est légère, elle est tout ce que nous voulons. Mais quand tu t'arrêtes une seconde et que tu lui demandes l'histoire de sa vie, tu te rends compte que divorcé, enfant divorcé de père et de mère, à la recherche de l'amour, a donc un problème intérieur qui est plus grave que le problème de sexe. Et c'est ce problème intérieur qui a amené le problème de sexe. Et quand l'intérieur sera résolu, l'extérieur aussi sera résolu. Mais la plupart des temps, nous, on s'attaque sur quoi? Sur la prostitution de l'enfant. Mais on ne s'attaque pas sur ces blessures intérieures, sur cette douleur intérieure et sur cette difficulté intérieure. C'est pour ça que j'ai dit encore une fois, merci au Seigneur, parce qu'il m'a amené à avoir un cœur brisé. Parce qu'il m'a amené à avoir l'année dernière un cœur contrit, et je peux comprendre très facilement, en écoutant l'histoire de quelqu'un, savoir que je peux laisser cette personne vivre dans sa fornication pour pouvoir résoudre son problème intérieur. Et jamais je ne condamnerai sa fornication, tout simplement parce que ce n'est pas la fornication qui est le problème, mais le problème c'est ailleurs. Vous voyez, quand on identifie l'adversaire avec lequel on est en train de lutter, le combat devient très facile. Mais quand on n'identifie pas l'adversaire, on va aider la personne à s'enfoncer. Parce que dans une famille normale, on va dire à Diane, écoute, tu quittes la maison avec ta mauvaise vie. Hein? Et on va toujours la mettre dans une situation plus difficile encore. Et pourtant, elle a besoin d'un père et d'une mère qui pourront lui donner de l'amour et de la tendresse, l'accepter déjà, commencer à guérir ses blessures. Et quand ces blessures seront guéries, on pourra donc lui parler facilement du Seigneur. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire, identifier l'adversaire. Et voilà donc que dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 20, nous sommes en train de parler de la victoire de Josaphat sur les Moabites et les Ammonites. Ce que je dis là est très important. Ce que j'ai dit là tout à l'heure est très important pour surtout ceux qui sont dans les évangélisations et dans beaucoup de choses. Parce qu'on peut trouver quelque chose de très faux par rapport à ce que nous sommes en train de penser de quelqu'un. Nous allons parler tout parce que c'est tout le texte que nous allons utiliser. Et nous allons tout simplement citer des versets en avançant. Comment gérer nos problèmes? La première chose que nous verrons dans le verset 2, c'est qu'on vient dire à Josaphat, chapitre 20, 2 Chroniques chapitre 20, nous sommes au verset 2. On vient dire à Josaphat que devant lui, il y a une multitude d'adversaires qui s'avancent contre lui, depuis la Syrie et Atsatson Tamar qui est en Guédi. Dans une multitude d'adversaires. Et c'est comme ça que très souvent, nous nous retrouvons assaillis par une multitude de problèmes. Vraiment une multitude de problèmes. Brutalement, comme je disais, notre garçon devient délinquant. Mais si on entre en arrière, on pourra se rendre compte que nous l'avons aidé. Parce qu'au moment où il avait 5, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, où sa personnalité était en train d'être formée, j'étais en ce temps-là dans le monde, j'étais ivrogne, j'étais alcoolique, j'étais séducteur de femmes, j'étais tout sauf son père. Je lui avais donné tout ce dont il avait besoin, mais il ne m'avait jamais eu. Je lui avais donné une montagne de cadeaux, une montagne de tout ce que, mais il n'avait jamais eu une maman ou un papa qui prenait dans ses bras et qui lui disait tous les jours dans l'oreille, « Je t'aime beaucoup, ma fille. » Et tu es plus précieuse pour moi que tous les cadeaux que je te donne. Et puis voilà donc l'enfant qui est en train de grandir. Qu'il y avait eu un père sans père, qui avait eu une mère sans avoir de mère. Et qui, au-dedans de lui, s'est commencé à jouer un trouble intérieur d'absence de père et de mère. Et il n'a connu que, au lieu de la tendresse, la violence du père et de la mère. Violence verbale, violence physique et toute forme de violence. Et au-dedans de lui commence à naître un désir véritable, parce que Dieu a donné à chacun de nous ce désir d'être aimé. Et si vous trouvez vraiment quelqu'un qui vous aime, accrochez-vous. Dieu a donné à chacun de nous le désir d'être véritablement aimé. Parce que l'amour, c'est comme une sorte de baume qu'on reçoit dans notre cœur. Et voilà donc l'enfant qui développe le désir d'être aimé. À 12 ans, ce désir le trouble. Et subitement, il a quelqu'un qui lui dit que je t'aime. Papa ne lui a jamais dit ça. Maman ne lui a jamais dit ça. Et ça a toujours été la bagarre. Et le voilà qui s'en va dans la rue, immédiatement. Et toi, papa, tu vas continuer à l'aider à aller dans la rue parce que tu vas dire, mais c'est pas comme ça que je t'ai élevé. C'est comme ça que tu l'as élevé. Puisque quand il était à l'âge où il voulait savoir ce que c'est que la vie, tu lui as donné un père qui était dans la rue, un père qui tape sa mère, un père qui... Voilà, tu lui as donné une mère qui est désobéissante, tu lui as donné une mère qui gronde, tu lui as donné tout sauf une mère qui marche avec lui au bord de l'eau. Et lui dit, tu contemples les étoiles, tu contemples la lune et tu vois la grandeur de l'Éternel, tout sauf ça. Vous voyez, ça fait donc qu'à un certain moment, on se rend compte que l'enfant commence à trouver le déséquilibre et nous allons toujours continuer à l'aider. Et bien évidemment, nous ne sommes pas responsables. Bien évidemment, nous ne sommes pas responsables. Voilà donc comment on peut identifier le et voilà donc une multitude qui se tient. Une véritable multitude qui se tient devant cet enfant, qui ne connaît pas le Seigneur. Disons donc, toi maintenant, le Père, tu connais le Seigneur. Voilà donc une multitude. Ta fille t'apporte un enfant. Ton garçon est dans la rue. Le deuxième garçon ne part pas à l'école. Et tout. Bon, voilà, si tu es sage et que tu as donné ta vie au Seigneur, tu dois d'abord commencer à te repentir et essayer de réparer le passé. C'est-à-dire que tu commences à prendre ces enfants à part, commences à parler à tes enfants, tu commences à te promener avec tes enfants et leur démontrer que tu les aimes. Et leur démontrer qu'il n'y a pas meilleur. Et à vous les jeunes d'aujourd'hui, qui êtes épris par l'argent, qui êtes épris par votre travail, ne gueulez pas demain les enfants quand ils auront 15 ans. Et quand ils vous diront que l'enfant a commencé à avoir l'habitude de ceci ou de cela, attention, attention. Si votre travail est plus important que vos enfants, vous en répondrez. Et une fois j'ai dit ici qu'il y a des moments, il faut savoir qu'il y a des moments où on a suffisamment amassé pour ne plus rechercher. Ça c'est l'Ecclésiaste qui le dit. Là maintenant, là, je ne fais plus d'affaires. Je mange, je bois et je suis avec mes enfants. C'est fini comme ça. On les élève, on marche avec eux. Bon, identifier le problème, identifier l'adversaire pour savoir comment combattre avec l'adversaire. Et identifier l'adversaire maintenant pour savoir quel type de puissance je suis en train de mettre dans la vie de mon enfant. Et quand, après que mon enfant ait réussi à être ce qu'il est, savoir quel type de puissance j'avais mis dans mon enfant. Et en ce temps-là, je vais plutôt tomber devant Dieu dans la repentance. Quand mon enfant ou ma fille apportera un enfant, c'est moi qui me repentirai parce que je lui avais donné le chemin pour pouvoir arriver là-bas. Nous voyons donc Josaphat qui est devant, en face de beaucoup de difficultés, en face de trois grosses nations qui sont en train de vouloir l'assaillir. Et toi, tu te retrouves assailli par de grosses difficultés, de gros problèmes, de gros soucis et de... J'étais en train de causer avec ma voisine, enfin, ma fille, ou encore... J'étais en train de causer avec elle, j'ai dit, très souvent, les enfants ont fêté les 50 ans d'anniversaire de mariage de leurs parents. Alors, c'était 50 ans d'anniversaire de bagarre ou 50 ans d'anniversaire de mariage. Hein? Parfois, ça peut faire 50 ans d'anniversaire de bagarre. Et maintenant donc, comme ils ne peuvent plus rien faire, ils sont déjà suffisamment vieux, ils sont donc obligés d'être l'un à côté de l'autre. Hein? Tout compte fait, il n'y a plus rien d'autre qui reste que toi. Donc on reste ensemble et chacun enterre l'autre. C'est tout. Voilà le résultat de leur mariage, voilà le résultat de leur vie. C'est pour ça que je dis qu'il faut que nous puissions identifier l'adversaire afin que nous puissions agir autrement. Dieu nous a donné la victoire. Que ce soit dans le cadre de l'Église, que ce soit dans le cadre de la famille, la meilleure façon c'est de toujours reculer pour identifier l'adversaire. Voilà donc que Josaphat est là. Et qu'est-ce qui arrive à Josaphat immédiatement? Au verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia le jeûne pour Juda. La première réaction qui entrait dans la vie de Josaphat, c'était quoi? La peur. La peur du lendemain. La peur de ce qui va arriver. La peur de ce que ces trois grosses nations vont faire contre lui, Josaphat. Il s'est retrouvé tellement minuscule, tellement petit, devant la grandeur des adversaires, que la peur, immédiatement, tout le monde le sait, la peur de son père, la peur de sa mère, la peur de ses parents, la peur de son mari, la peur de sa femme, la peur du lieu de travail, la peur même de l'église dans laquelle on est. Tout simplement parce que quand on arrive à cet endroit, on a comme une bousculade de problèmes, de difficultés, d'épreuves. Et quand on regarde la personne, on a comme une bousculade de problèmes, de difficultés, d'épreuves. On prend peur, immédiatement. La première solution de Josaphat, c'était quoi? Il a d'abord disposé son cœur. Le verbe est très important. Josaphat disposa son cœur à chercher l'Éternel. Il n'a pas disposé son cœur à pouvoir trouver les éléments pour pouvoir aller en bataille contre l'adversaire. Il n'a pas cherché les armes qu'il peut utiliser pour lutter contre l'adversaire. Il n'a pas cherché les moyens pour résoudre le problème de son enfant, pour résoudre le problème de ses enfants, de son mari, pour résoudre. Il a d'abord disposé son cœur à chercher l'Éternel. Et parce qu'il a disposé son cœur à chercher l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? L'adversaire est là-bas. Lui, il va plutôt de l'autre côté. Pas vers l'adversaire, mais vers le Seigneur. Il va dans le temple. Amen. Tu as trois grosses nations devant toi. Ta réaction, c'est d'aller dans le temple. Parce qu'il a disposé son cœur à chercher l'Éternel. Nous voulons dire que Josaphat aimait le Seigneur. Nous voulons dire que Josaphat savait que le combat, c'était quelque chose de très difficile. Alors, il est allé dans le temple. Et vous voyez, c'est cette peur qui a amené, par exemple, Élie. Quand Élie a fait un gros exploit spirituel, comme beaucoup de frères et de sœurs qui peuvent sortir d'une grosse, retraite, dans laquelle le serviteur de Dieu a imposé les mains, ils ont reçu une puissance du Saint-Esprit tellement forte qu'ils sont capables de bouleverser toutes les montagnes. Mais dès qu'ils arrivent devant leur maison et ils voient le petit géant de l'enfant qui est encore devant lui, et on dit, ton enfant vient encore de voler de l'argent. La réaction première sera, voilà un enfant qui enlève la paix et la joie que je viens de recevoir du Seigneur. N'est-ce pas? Je viens d'une retraite où j'étais dans la présence du Seigneur et la première chose que j'entends, c'est l'enfant a volé de l'argent. Et toute ma joie est partie. Ça veut dire que tu n'étais pas dans la joie. Ça veut dire que tu n'étais pas dans une paix véritable. Parce que cette paix et cette joie ne devaient pas partir. Et quand il a cherché la face de l'Éternel, il a commencé à faire quoi? À louer. Gloire à Dieu, parce qu'il a encore volé. Alléluia. Gloire à Dieu, parce qu'il a encore menti. Josaphat a disposé son cœur à chercher la face de l'Éternel. Et il est allé directement au temple. Et lui, il a pris peur. Et quand il a pris peur, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas allé vers le temple. Il est plutôt allé se coucher dans le désert. Mort, suis-moi. Mort, prends-moi. Ok. Comme Dieu est un Dieu qui exauce les prières, il a exaucé les prières d'Élie. Gloire à Dieu, il dit, je te reprends. Et Élie a perdu son ministère. Là, 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 là. tu vas oindre Élisée comme ministre de Dieu, et toi, ok, c'est fini. Vous voyez comment une vie s'est arrêtée, une vie d'exploit s'est arrêtée, une vie de grandeur s'est arrêtée, tout simplement parce que il y a plein d'adversaires devant moi, je prends peur, je panique, je ne dispose pas d'abord mon cœur à louer Dieu, je dispose plutôt mon cœur à la peur, et je m'en vais vers autre chose. Et c'est la même chose que Jacob a eue. Dieu lui dit, écoute, tu rentres vers ton frère Ésaü quand il était poursuivi par son beau-frère Laban. Et quand il arrive pas loin d'Ésaü, son frère, au lieu d'aller vers son frère, qu'est-ce qui se passe? Il s'arrête en chemin, il prend peur. Parce qu'il sait tout ce qu'il avait fait à son frère. Et pourtant, Dieu lui a dit pas. Et quand son frère arrive, il lui montre les bonnes dispositions. Je suis déjà riche, je ne veux rien, prends même les cadeaux que tu m'as donnés, viens et on reste. Il dit que jamais. Il a préféré ne pas être là où son père, dans l'héritage de son père, à côté de son frère, là où la bénédiction d'Abraham a commencé, suivi de la bénédiction de Isaac. Et c'est là où Ésaü était, et c'est là où Dieu lui a dit rentre, parce que c'est là où j'ai béni ton père, et tu dois rester dans la bénédiction de ton père. Il allait rester où? À Sukkot, ville des païens, parce qu'il avait peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a déviergé sa fille. Ses enfants ont tué les autres. Et il s'est retrouvé dans des situations difficiles. Vous voyez ce que peut faire la peur? Au lieu de chercher la face de l'Éternel, on va plutôt vers des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils peuvent même être des frères. Et c'est là où on va donc tout perdre encore. Mais face à la multitude, Josaphat a disposé son cœur et il est allé dans la maison de l'Éternel. Voilà le premier pas de victoire. Voilà comment gérer ses problèmes. Josaphat a identifié ses adversaires. Quel est l'adversaire que tu as devant toi et qui agit dans ta personne ou dans la personne qui est en face de toi? La suffisance de soi, c'est un adversaire. Son orgueil, c'est un adversaire. Sa mauvaise vie, c'est l'adversaire. Ta propre mauvaise vie, c'est ton adversaire. Et son égoïsme, c'est ton adversaire. C'est l'adversaire. L'ingratitude, c'est l'adversaire. Et tout ce qui peut être dans le péché, c'est l'adversaire. Et si tu identifies cet adversaire, tu peux avoir peur de son orgueil, de son ingratitude, et tu fuis. Voilà. Et ça peut aussi être ton manque de patience, parce que tu as déjà fait beaucoup d'années, tu n'es pas marié, c'est l'adversaire, et tu commences à faire des projets et d'autres projets. Et voilà donc, quand il est allé dans la maison de l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, au verset 7 et 8, il a commencé d'abord à se rappeler de ce que Dieu a déjà fait. C'est ça qui est très important. Si Dieu n'a jamais rien fait dans ta vie, tu vas toujours avoir peur. Si Dieu ne t'a pas dit toi-même, tu étais pécheur, et j'étais sorti du péché. Ça veut donc dire que j'ai la puissance, moi, le Dieu vivant, de libérer quiconque est en face de moi et qui vit dans le péché. Tu vas prendre peur. Parce que le péché de celui-là sera tellement grand que tu vas te dire, comment je vais vaincre? Mais quand tu te rappelles que Dieu a vaincu ton propre péché à toi, aussi minime soit-il, tu vas te rendre compte que même celui-là, Dieu peut le vaincre. Si Dieu n'a rien fait dans ta vie, tu ne pourras pas prendre appui sur ce que Dieu a déjà fait. Si tu sais toi-même, et ça c'est ce que j'aime très souvent, quand c'est des couples ou des enfants qui sont dans une maison où ils étaient d'abord pécheurs et ils sont devenus enfants de Dieu, ou bien le mari ou la femme était d'abord chrétien, il est devenu enfant de Dieu, et que l'un ou l'autre vient se plaindre devant moi et me dit vraiment... mon enfant, il enlève ma joie. Depuis que je suis enfant de Dieu, je n'arrive pas à me concentrer parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Et tu commences à avoir des paroles dures et difficiles contre cette personne. La première question que je te pose toujours, c'est qu'est-ce que tu as été dans le péché avec ton mari ou avec ta femme? Vous partiez dans les bois de nuit, oui. Vous partiez boire, oui. Toi-même, tu faisais le coni-coni souvent, oui. Ok. La longanimité de l'amour de Dieu pour toi a fait qu'au temps favorable, tu es devenu enfant de Dieu. Laisse aussi que celui-là continue dans son péché jusqu'au jour où l'amour de Dieu aussi va le saisir. Tu te plains pourquoi? Ne te plains pas. Parce que Dieu ne se plaignait pas de toi, il te cherchait. Et quand Dieu t'a trouvé, toi aussi ne te plains pas, prie pour l'autre jusqu'à ce que Dieu le trouve. Mais immédiatement, c'est l'autre qui devient notre adversaire, ce n'est plus son péché qui est l'adversaire. Et c'est là où les choses sont donc totalement déplacées. Et c'est là où se trouve le problème actuellement, qui fait que dans les églises, tout le monde est brouillé, dans les maisons, tout le monde est brouillé, et les gens ne s'entendent pas. Alors, il s'est basé sur ce que Dieu avait fait pour lui. C'est-à-dire qu'un jour, j'avais besoin d'un million de francs, Dieu m'a donné. Et le lendemain, j'ai besoin de 500 000. Et on me dit, demain, si tu ne payes pas les 500 000, on va venir prendre ta voiture. La peur va donc entrer. Je vais faire comment? Est-ce qu'il faut prendre les dettes? Est-ce qu'il faut prendre... Josaphat a dit non, je rentre d'abord, je dispose mon cœur à chercher Dieu. Il dispose son cœur à chercher Dieu. Il va dans la maison de l'Éternel. Et puis, il commence donc à attendre Dieu lui parler. Et là, il se souvient que, attends, quand j'avais un problème d'un million de francs, Dieu m'a donné. Ça veut donc dire que 500 000 francs ne sont rien pour lui, pour qu'il puisse me donner. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose qui était très importante dans ce combat-là, c'était la personne de Josaphat. Nous avons dit, nous avons vu dans 2 Chroniques chapitre 17 déjà que Dieu aimait Josaphat. C'est une personne qui a marché selon les voies de son père. Et nous nous rappelons quand il revenait de la guerre avec Akab, Dieu dit, tu n'es pas mort parce que le prophète de l'Éternel dit à Josaphat, parce qu'il allait s'allier avec quelqu'un que Dieu n'aimait pas. Le prophète de l'Éternel lui dit, c'est parce que Dieu a trouvé quelque chose de bien en toi. C'est pour cela que tu n'es pas mort. Parfois, Dieu cherche le bien qu'il peut trouver en nous, qu'il peut tenir devant Dieu, afin que Dieu puisse agir. Il ne trouve même pas ce bien. Et il se demande même comment il va faire pour agir à travers ta vie pour atteindre l'autre. C'est ça le problème de Dieu. Je mets mes genoux à terre, je veux que Dieu fasse quelque chose. Mais il descend, il te regarde. Il dit, mais sur quoi même je peux me tenir dans la vie de cette personne pour atteindre l'autre? Il cherche, il ne voit pas. Il cherche dans ta vie. Est-ce qu'il a même un peu d'amour? Je ne vois pas. Est-ce qu'il a pardonné? Je ne vois pas. Est-ce qu'il est soumis? Je ne vois pas. Sur quoi je vais me tenir sur sa vie pour pouvoir atteindre l'autre? Et changer la situation de l'heure dans laquelle il est. Dieu ne trouve pas. Est-ce que Dieu cacherait quelque chose à son ami Abraham? Non. Que Abraham sache donc que je suis en train d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et son ami Abraham lui dit, pardon, papa, ne détruis pas. Parce que Dieu a trouvé quelque chose de bien en celui-là. Est-ce que Dieu va détruire Israël qui est en train de pécher sans dire à son ami Moïse? Non. Il parle d'abord à son ami Moïse. Et son ami Moïse va plaider et Dieu va revenir en arrière. Parce que Moïse lui a dit, comme je dis toujours, il a fait une chose que je ne sais pas si nous pouvons le faire. Tu détruis ce peuple, tu m'enlèves du livre de vie. Dieu regarde Moïse, mon serviteur. Ce peuple est sauvé. Ce peuple est sauvé. Puisque je ne peux pas t'enlever, Moïse, toi, du livre de la vie, je préfère pardonner le pécheur que de t'enlever. Parce que Moïse lui a dit clairement, gars, enfin, c'était des amis. Là où tu es là, c'est clair. Tu les détruis, tu m'enlèves du livre de la vie. Et si j'ai été ton ami, on va voir ce que tu vas faire. Ça, c'est un bon chantage. Tu peux le faire à Dieu. Est-ce que tu es capable de faire du chantage à Dieu? Si la situation ne change pas, je ne suis plus ton enfant. Et Jésus va voir le sang qu'il a versé. Et Jésus va voir la vie qu'il a menée. Et Jésus va voir tout ce qu'il a fait dans ta vie. Et il va rentrer vers son père pour dire, tu as entendu ce qu'il a dit? Il veut sortir du livre de vie si tu ne changes pas la situation de cette personne. Change ça. Amen. Parce qu'il voit quelque chose en toi. Il voit quelque chose qu'il aime en toi. Et comme il a vu quelque chose qu'il aimait en Josaphat, gloire à Dieu. C'était extraordinaire. Et la troisième chose qui tenait pour Josaphat, c'était que Josaphat avait une confiance irréversible envers Dieu. Au verset 20, il va dire, la Bible dit, le lendemain, il se mit en marche, de grand matin, pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et enfants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Qui est le chef des armées en Israël après Dieu? C'est le roi, non? Le roi a lancé la... À qui? Il a remis la responsabilité de la bataille en l'Éternel. Et lui-même, il s'est soustrait. Il a dit que maintenant, écoutez plutôt les prophètes. Le combat n'est pas physique. Amen. Le combat n'est pas physique. Il est spirituel. Et parce que le combat est spirituel, il faut que c'est ceux qui sont spirituels qui se mettent devant. Pas les gens qui portent des armes, pas des gens qui ont des arcs, mais c'est l'Éternel qui est devant. Et maintenant, qui vient derrière lui, c'est son armée de chantres. C'est des gens qui louent, c'est des gens qui adorent, c'est des gens qui célèbrent l'Éternel. Et quand Josaphat va donc faire son armée, il a mis l'Éternel devant, et il ne savait même pas à quelle distance était l'Éternel. Ça, c'est une chose extraordinaire. Il a mis l'Éternel devant, et l'armée venait derrière avec la louange. Mais l'Éternel devant la puissance de l'orgueil, de la haine, de la méchanceté, qui est, dispose ton cœur à écouter l'Éternel, et mets l'Éternel devant. Le combat n'est pas le mien, le combat est de l'Éternel. Et quand il a fait, oh gloire à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'ils ont commencé à louer, puisque Josaphat ne connaissait pas à quelle distance était l'Éternel, il ne savait pas que l'Éternel était déjà dans le lieu de la bataille. Lui, il croyait qu'ils allaient louer 15 ans avant que l'Éternel... Non, mais dès que la louange a commencé, Dieu descend au milieu de la louange. Non, les trois nations étaient défaites. Elles ont été défaites en quelques secondes. Totalement défaites. Vous voyez, comment gérer nos problèmes avec le Seigneur? Comment gérer nos difficultés avec le Seigneur. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et si Dieu a vu quelque chose de bien en toi, tu vas à un moment finir par lui dire que Dieu, si tu ne résous pas le problème-ci, tu vas me perdre. Et Dieu va résoudre le problème parce qu'il t'aime. Parce qu'il a vu quelque chose de bien en toi. Et c'est ce que je cesse de prêcher ici. Que la haine du péché soit à la base de tout ce que nous entreprenons. Que l'intégrité et la droiture soient le fondement de notre vie. La compassion et la miséricorde, le moteur de nos actions. Alors vous pouvez donc comprendre que nous pouvons nous demander avec raison. Qui a combattu pour qui très souvent? C'est les chrétiens qui ont combattu pour Dieu ou c'est Dieu qui a souvent combattu pour les chrétiens? C'est les chrétiens qui ont toujours combattu pour Dieu. Est-ce que Dieu a déjà combattu pour nous un jour? Non. Moi, je pense que... Et vous voyez donc une lutte d'opinion qui relève de ce qui est à l'intérieur de ces deux personnes à ces moments précis. Cette lutte d'opinion relève que celui qui est en toi et celui qui est en lui est motivé par des puissances qui sont étrangères à Dieu. Et comme ces puissances sont étrangères à Dieu, elles utilisent la chair. Et ça fait donc un combat et chacun doit se tenir par rapport à sa position. Combien de fois nous est-il arrivé à faire ça? Que ce soit pour notre femme, pour notre enfant, pour notre père, pour notre mari. Combien de fois nous sommes-nous sortis de la puissance de Dieu pour entrer dans la puissance de l'ennemi par des luttes d'opinion et déclarer que tu es trop orgueilleux? Mais c'est ça l'ennemi, celui que tu viens de désigner là-bas maintenant. Tu es trop orgueilleux. Si tu as donc identifié l'ennemi, recule. Dispose ton cœur à écouter Dieu. Et laisse la puissance de l'humilité habiter en toi. Amen. Voilà, tu as identifié l'ennemi et tu as trouvé l'arme. Puisqu'il est orgueilleux, tu recules, tu laisses la puissance de l'humilité habiter en toi. Tout ce qu'il va dire, tu vas seulement dire, ok, tu as raison. Ok, tu as raison. Ok, c'est bon. Et tu te soumets. Maintenant, c'est l'humilité qui va lutter contre... Alléluia. Amen. Et la victoire est là. Tu as identifié que c'est un homme ingrat. Tu peux faire tout ce que tu peux dans ce monde. Il ne te dira jamais merci. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être habité par la parole du Seigneur qui dit, donnez sans rien attendre en... Et chaque fois qu'il te demande quelque chose, tu... Chaque fois qu'il te demande, tu ne fais que donner. Et dans ton cœur, tu es préparé à donner sans jamais rien attendre en retour. Lui, il croit qu'il est en train de te faire quelque chose de mauvais. Il ne sait pas que ton cœur est clean dans cette histoire. Il n'y a rien dans ton cœur. Vous voyez, l'identification de l'ennemi nous permet de mener les combats du Seigneur et de vaincre l'adversaire par les qualités spirituelles que le Seigneur nous a données. Pourquoi est-ce que nous sommes tristes? Parce que nous ne connaissons pas notre adversaire. Et parce que nous ne connaissons pas notre ennemi. Et on a donc comme l'impression que l'adversaire, c'est plutôt celui qui est en face de nous. J'espère que nous avons compris ce matin quelque chose. Alléluia. Je reconnais que pendant beaucoup de temps dans ma vie, si j'avais compris ça, il y aurait des combats que je n'aurais pas menés. Et il y aurait des batailles que je n'aurais pas faites. Mais là, maintenant, je sens que je suis cool. J'ai déjà atteint le point d'âge. Je suis cool. Tu vas faire tout ce que tu veux. La grâce de Dieu m'a appris à identifier l'adversaire. Et cet adversaire peut être moi-même. Donc, au lieu de dire qu'on se tient pour le Seigneur, laissons le Seigneur se tenir pour nous. Et quand on a identifié l'adversaire et l'ennemi, utilisons les armes du Seigneur. Et Josaphat avait identifié l'adversaire et l'ennemi. C'était une multitude. Et il avait, comme vous allez lire, une multitude ingrate. Il dit, Seigneur, tu te rappelles, quand nous passions par leur pays, tu nous as dit, ne les touchez pas. Mais maintenant, le résultat qu'ils sont en train de donner, c'est quoi? C'est que nous leur avons fait du bien, pardon, et ils nous remettent le mal. Quel est donc l'adversaire qui est là? La méchanceté. Qui peut lutter contre la méchanceté? C'est le Dieu de justice. Alléluia. C'est le Dieu de justice qui va lutter contre la méchanceté. Pourquoi tu te tiens dans cette bataille? Mais tu recules de la bataille. Et tu laisses le Dieu de justice, comme Josaphat l'a fait. Il a laissé le Dieu de justice être le chef de bataille. Et comme nous disions, Dieu habite au milieu de la louange de son peuple. Le Seigneur est descendu. L'apôtre Paul l'avait compris. La Bible dit qu'il était enchaîné avec Silas et ils étaient dans la prison. Et vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges au Seigneur. Tout simplement. Ils chantaient juste les louanges au Seigneur. Ils avaient compris que face à l'adversité, à la méchanceté, il n'y a que Dieu qui peut les aider pour pouvoir les sortir de cette difficulté. Bien-aimés, pourquoi est-ce que nous aimons nous lever les uns contre les autres? C'est tout simplement, comme je disais, puisque nous n'avons pas identifié l'ennemi, c'est la chair maintenant qui va finir par être le moyen que nous utilisons pour pouvoir résoudre le problème. Bon, j'ai une femme qui sait tout et qui croit que tout ce qu'elle veut faire, c'est ça qui est bien. Mais qu'elle n'a qu'à faire, non? Tu n'as qu'à faire. Enfin, je le dis maintenant, hein. Hier je ne le disais pas comme ça. Mais tu n'as qu'à faire. Si tu penses qu'il faut acheter le pot rouge, achète le pot rouge. Si tu penses qu'on doit manger à terre aujourd'hui, on mange à terre, non? Si tu penses que demain. Parce que si tu commences à lui dire, je suis le chef, et elle commence à te dire, tu veux toujours m'obliger à faire des choses. Bon, tu choisis à être le chef ou tu choisis à être humble. Parce que insoumission veut dire orgueil. Et face à l'orgueil, il faut agir avec humilité. Tu te retires. Voilà. Voilà les combats de l'Éternel. Et voilà comment l'Éternel nous donne ses victoires. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, si tu arrives à entrer et à connaître les combats de l'Éternel, tu vas être comme moi, non? Tous les jours, tu rajeunis seulement un peu. Oui, non, parce que quand tu dors, tu dors. Quand tu dors, tu dors. Mais parfois, quand tu dors, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Parce que l'adversaire est là. Et tu as mis l'adversaire dans un homme. Bien aimé, cet adversaire peut être une maladie. Cet adversaire peut être un manque d'argent. Cet adversaire peut être le travail que tu as perdu. Et quand il s'agit d'une maladie, quand il s'agit d'une perte de travail, quand il s'agit... L'adversaire n'est plus l'autre. L'adversaire sera au-dedans de toi. Et cet adversaire ça s'appellera qui? L'impatience. Cet adversaire s'appellera qui? Le désir de résoudre le problème par toi-même. Cet adversaire s'appellera qui? La peur. Cet adversaire, ce sont des sentiments qui ne sont plus les sentiments de Dieu qui habiteront en toi. Et dès lors que ces sentiments qui ne sont plus les sentiments de Dieu habiteront en toi, c'est eux qui deviendront ton adversaire. Dès lors, ce n'est pas parce que tu n'as pas le travail que tu souffres. Mais c'est parce que tu veux avoir le travail que tu souffres. Est-ce que j'ai raison? Non. Ce n'est pas le manque de travail qui te fait souffrir, mais c'est le désir absolu de pouvoir avoir le travail qui va te faire souffrir. Parce que si le manque de travail, tu le remets entre le Seigneur, et le Seigneur te dit, à chaque jour suffit sa peine. Et que tu manges le macabo avec l'huile, tous les jours, tu dis merci Seigneur pour le macabo avec l'huile. Parce qu'il y en a qui n'ont même pas le macabo avec l'huile. Merci Jésus. Et que tu entres donc dans le verset de la Bible qui dit que ne vous inquiétez de rien. À chaque jour suffit sa peine. Vous êtes de passage de ce monde. Votre royaume est de le royaume de Dieu. Et que tu es fixé dans les choses du ciel. Problème, Timmy. Nabalani. Le problème est fini, non? Il va être traduit. Problème, Timmy. C'est fini. Non, le Seigneur est tellement bon avec nous. Mais seulement parfois on découvre ces choses qu'on lit tous les jours plus tard. Heureusement pour vous parce que vous les découvrez maintenant. Après que nous on ait souffert pour pouvoir les trouver, on vous les donne gratuitement. Amen. Que le Seigneur bénisse vraiment. C'est pour ça que je dis que la vie chrétienne c'est la meilleure des vies. Vous pouvez donc voir quelqu'un comme Moïse, il va dire, oh je suis mort à 120 ans, j'étais toujours plein de force et de vigueur. Parce qu'il n'a pas gaspillé sa force et sa vigueur à des choses qui n'ont pas de sens, à des batailles qui n'ont pas de sens. Maintenant donc, que tu as vaincu l'adversaire, l'orgueil qui est dans l'autre ou la crainte qui est en toi, qu'est-ce que Josaphat a fait? Il est reparti là où il a commencé. Dans la maison de l'Éternel. Un jour, une femme me dit, pasteur, il faut prier pour que mon mari donne sa vie au Seigneur. Et je lui dis, alors, tu veux que je prie? Et s'il donne sa vie au Seigneur, et puis quoi après? Oui, comme ça, il va rentrer un peu tôt. Comme ça, il va partager l'argent de nourriture avec moi. Comme ça, la famille sera très bien. Je lui dis, tu veux que ton mari devienne enfant de Dieu pour toi, pas pour Dieu. Donc, je prie pas pour toi. Je lui dis ça clairement. Je ne prie pas pour toi. Parce que c'est pour un besoin égoïste qui me donne l'argent de nourriture, qui rentre dormir toi à la maison. Mais je n'ai jamais vu quelque part où tu as commencé par dire, nous méditons ensemble, il va prêcher l'évangile de Jésus-Christ, il va accueillir les pauvres. Non, tout c'est moi, il me donne. Ça c'est toujours des choses égoïstes. Ça veut donc dire qu'il y a un adversaire dans ta propre vie, ton égoïsme, qu'il faut absolument combattre. Bien aimé, que le Seigneur nous donne véritablement. Il est donc rentré dans la maison de l'Éternel pour célébrer encore l'Éternel. Il y a une chose que j'ai oublié de dire, c'était extraordinaire. Dans la maison de l'Éternel, qu'est-ce qui s'était passé? Pendant qu'ils étaient en train de louer, Dieu a parlé dans la bouche de quelqu'un, même pas un prophète. Il dit, ce combat n'est pas le vôtre. Il y a donc eu comme une sorte de transfert qu'il avait déjà commencé à faire. C'est-à-dire, il dit, je dispose mon cœur à louer Dieu. Je m'en vais dans la maison de l'Éternel et je lui présente le problème. Et Dieu dit, ok, je prends donc le problème entre mes mains. Ce combat n'est plus le tien, il est devenu le... Combien de transferts de combat vont nous faire entre les mains de Dieu? Combien de transferts? Pour lequel je dis, je t'ai déjà remis ce problème, je n'en parle plus. Je t'ai déjà remis ça, mais je n'en parle plus. Voilà un transfert réel de problème des mains de Josaphat aux mains de l'Éternel. Et ce transfert a fait que Josaphat était easy. Vraiment. Il était à l'aise. Il n'avait pas de problème. Et à la fin, il va dire, allez, suivez ce que les prophètes vont vous dire. Écoutez l'Éternel. Moi, je ne suis plus là-dedans. J'ai même bien peur que lui-même, il allait s'asseoir au palais. Non, je ne pense pas. Il devait être parmi les louangeurs, comme disent les autres. Il a fait un transfert. Hein, mais vous connaissez l'image que je donne toujours, quelqu'un qui prend son problème sur la tête, il dit, Seigneur, je te remets le problème. Et après, en partant, il reprend encore son problème, il remet sur la tête. Et le dimanche après, il dit, Seigneur, je te remets le problème. Et après le culte, il reprend encore son problème, il met sur la tête. Et pendant toute sa vie, il prend le problème, donne le problème, prend le problème. Et puis Jésus est là, il dit, mais attends, celui-là veut quoi? Il veut quoi à la fin? Que le Seigneur nous bénisse véritablement. Identifions notre adversaire et laissons le combat au Seigneur. Et quand donc, parfois, on est là, donc on a fini par trouver donc ce que le Seigneur nous a mené dans ce que nous voulions. Vous savez combien de personnes ont déjà dit merci véritablement à Dieu. Vraiment merci. Comme nous avons aujourd'hui les paroles de Jésus dans les musiques du monde. On va donc maintenant dire qu'on va rendre grâce au Seigneur. On appelle les frères. On danse les paroles de Jésus selon le monde. Hein? Après, on a rendu grâce au Seigneur. Il est allé dans le temple pour louer. Hein? Tu viens ici, tu passes une journée pour dire merci. Toute la nuit, tu dis Seigneur, je t'aime. Merci Seigneur, je t'aime. Toute la nuit. Mais dès que le problème est fini, l'orgueilleux de ton patron qui était devant toi, Dieu l'a enlevé et il t'a placé à sa place. Tu es devenu directeur. L'argent que tu reçois, tu commences déjà à calculer la maison que tu vas construire. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand je n'étais pas directeur, je marchais comme les non-directeurs. Aujourd'hui, je suis directeur, je dois avoir la Mercedes comme les autres directeurs. Seigneur, tu es bon. Mais il est bon, non? Alléluia. Non, lui, il est rentré au temple. Et il a célébré le Seigneur au temple. Et il est resté dans le temple. Et Dieu l'a encore beaucoup aimé. Et la Bible dit quoi? La conséquence, c'est que même les païens ont dit qu'à partir d'aujourd'hui, Josaphat, nous ne t'attaquons plus. Je vais lire le verset 29. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays. Lorsqu'il apprit que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël, et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous les côtés. Et son Dieu lui donna du repos. Alléluia. Quand l'ingrat vient, il veut agir, il dit que non, celui-là, je ne peux pas. Quand l'orgueilleux vient, il veut faire ses choses, il dit que non, celui-là, je ne peux pas. Quand l'adultère vient, il veut faire ses choses, il dit que non. Après, Dieu laisse tous ces bonhommes-là autour de toi, te laisse. Parce qu'ils savent que Dieu est avec toi. Et quiconque se lève contre toi, il voit toujours la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa grâce soit avec nous.